Mars et je podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son qui réalise ces podcasts pour nous vous faire découvrir l'univers des artistes, des artisans, des techniciens, en quelques mots, les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pourrez retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur le site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, troisième épisode sur les quatre de ce podcast dédié à Pascal Bordet, une costumière de grand talent qui habille le cinéma français et qui fut maintes fois primée. Et Pascal Bordet est également l'auteur du livre « Splendeur et misère d'une costumière », un journal illustré composé d'aquarelles, et également des photographies de Laurence Inlotte, et ce livre est préfacé par François Morel aux éditions Hervé Chopin. C'est sorti en 2018. Au micro de Margot Delpierre, sur un montage de Thomas Langlin, Pascal Bordet lève le voile sur les coulisses de son métier.
C'est Francis Huster, je crois, si je ne me trompe pas, dans votre livre, qui dit « Le costumier est le premier à interpréter le rôle ». Ça vous plaît comme formule ?
Il n'a pas tort. Enfin, il a même raison. De toute façon, Francis a souvent raison. Il connaît bien ce métier. Oui, c'est une première interprétation, puisque quand je dois dessiner un personnage, d'abord, je le dessine souvent acte 1, acte 2, acte 5, entrée, sortie. Je dessine ce qu'il a dessous, ce qu'il a dessus, les accessoires. Forcément, c'est une première interprétation, puisque je lui donne une couleur. Après, si ça plaît pas, je recommence. Des fois, c'est au troisième ou quatrième essai qu'on se met d'accord sur une maquette. C'est pas forcément du premier coup.
Est-ce que ça peut aller au clash avec certains membres de l'équipe, que ce soit un metteur en scène ou un comédien, vu toutes les contraintes dont vous me parlez ?
Bah, il m'est arrivé quelquefois de dessiner une robe pour l'acte 3. J'avais décidé que cette robe était rouge. Et puis, la comédienne, quand le décor est arrivé, s'est assise sur un fauteuil et le fauteuil, il était rouge. J'avais prévenu. Mais le décorateur, lui, n'avait pas regardé mes aquarelles. Donc, il avait fait à son idée. Et quand on en arrive là, c'est pas le fauteuil qu'on change. C'est le costume. C'est moi qui refais. J'ai refait la robe. J'ai refait la robe parce que la robe n'allait plus sur le fauteuil.
Mais pourquoi c'est à la costumière qu'on demande de changer alors ?
Parce que ils estiment que ça coûte peut-être moins cher de refaire un costume qu'un fauteuil. Et puis parce que hiérarchiquement, le décorateur a plus de pouvoir que moi. Et quand il impose la couleur d'un fauteuil, d'un canapé, d'une méridienne, d'un rideau, il passe avant moi. Il est hiérarchiquement plus puissant.
Il est plus puissant dans les faits, mais il n'y a pas de hiérarchie établie.
Si, il y en a une, si, bien sûr que si, ne serait-ce que financièrement. On n'a pas les mêmes budgets et on n'a pas les mêmes salaires non plus. Le décorateur passe avant. Sur l'affiche, il est au-dessus de mon nom.
Ah oui, j'avais jamais fait attention.
C'est décor, costume, lumière. Mais c'est décor d'abord.
Et là, par exemple, dans cette situation, vous vous êtes énervé, vous prenez sur vous et vous changez.
Je ne suis pas énervée. J'ai tout recommencé dans la nuit. Je me souviens, ça m'est arrivé pour le bourgeois gentilhomme, la scène de la Turquerie, quand on l'a joué au Théâtre de Paris, il y avait 40 costumes. Et le premier soir où tout le monde s'est habillé dans le décor, j'ai découvert que le décor était trop bleu. Et j'avais fait des costumes avec du bleu. Et ça marchait pas du tout. C'était catastrophique. À minuit, quand tout a été fini, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je recommence. Je me suis pas énervée. Je suis allée voir le metteur en scène et je lui ai dit, ça marche pas. Est-ce que tu me permets de tout recommencer ? Et j'ai tout recommencé. J'ai refait 40 costumes, sans bleu, avec des orangés, avec des rouges, avec des couleurs qui étaient plus complémentaires au décor. En fait, le décor était tellement lourd, il prenait tellement de place qu'on pouvait pas dans la nuit repeindre un décor. Mais refaire 40 costumes, oui, j'ai refait 40 costumes.
Dans ces cas-là, vous êtes seule ou vous avez de l'aide ?
Non, à cette époque-là, j'avais un atelier et j'avais beaucoup de monde avec moi. J'avais deux assistantes qui étaient effondrées parce qu'on croyait avoir fini et le lendemain, il a fallu recommencer à 8h du matin et c'est beaucoup. 40 costumes, ça veut dire 40 costumes, mais 40 chapeaux, 40 chaussures, et il fallait tout recommencer. Et j'ai dit, ça sert à rien de discuter. Il faut faire. Parler, ça fait pas avancer les choses. C'était non négociable. On pouvait pas repeindre le décor. Le décor, il était imbougeable. On a refait les costumes.
C'était en quelle année ?
2004, 5, 6, je sais plus. Voilà, il y avait, c'était un bourgeois gentilhomme monté dans les règles de l'art avec 5 actes. Et beaucoup de comédiens, de figurations, de danseurs. Et la turquerie du bourgeois gentilhomme, c'est l'apothéose de la pièce. C'est un moment énorme. Il fallait que ce soit réussi, absolument. Et pour moi, ça n'a pu être réussi qu'à cette condition de refaire.
Dans ces situations-là, vous n'avez pas envie de jeter l'éponge ?
Bah, sûrement pas. Arriver au cinquième acte et lâcher, non. Non, même au premier acte d'ailleurs, je m'obstine. Je suis quelqu'un, comme dit François Morel, de très têtu, de zinzin. Mais c'est prioritaire pour moi. Je crois que j'ai jamais abandonné dans ma vie. Jamais. Jamais, c'est un challenge. Je me dis, il faut aller jusqu'au bout. J'ai signé pour ça, j'ai mis mon nom à l'affiche. J'ai engagé du personnel, des gens qui me font confiance. Les acteurs me suivent, les metteurs en scène. Je pourrais pas rentrer chez moi avec un tel échec. Je ne le supporterais pas.
Vous rencontrez beaucoup de situations stressantes, j'ai l'impression.
Bah, c'est toujours stressant parce que je me tape le trac des acteurs. Donc, je dois gérer le leur avec le mien, sans qu'ils s'aperçoivent que moi, j'en ai un aussi, trac. Disons que j'angoisse avant, je stresse pendant et je déprime après. Il y a un moment où je suis heureuse. Je crois que c'est le soir des premières, quand je sais que tout est à sa place, que les acteurs ont répété leur changement, ont vécu avec leur costume pendant des mois de répétition. Ils sont heureux, ils ont trouvé leur voix, leur personnage, tout roule, les changements de décor, les changements de lumière et tout ça. Et le soir de la première, je peux enfin vraiment me mettre dans la salle pour la première fois en tant que spectatrice et profiter du bonheur et du plaisir d'un travail collectif, mais pas avant.
Les comédiens se confient à vous ?
Oh oui, je sais tout de leur vie, vous pensez bien, ça s'appelle le syndrome de la costumière. Enfin, moi je l'appelle comme ça, parce que quand ils arrivent à moi, d'abord ils se déshabillent. Et quelqu'un qui est déshabillé devant vous n'a plus aucune défense, il est démuni et il est nu, il est habillé. Et puis il se confie à moi parce que, ben voilà, à l'acte 3, comment je vais le jouer ? Et tu pourrais pas me trouver, je sais pas, trouve-moi un éventail, trouve-moi des bijoux, trouve-moi quelque chose pour jouer avec, trouve-moi quelque chose qui fasse que moi je trouve. Vous vous rendez compte ? La responsabilité, ce que je dois trouver avec eux, pour eux. Oui, bien sûr qu'ils se confient à moi. Leur peine, leur joie, leurs angoisses, leur détresse, leur bonheur, leur vie. Parce qu'eux aussi, ils y mettent leur vie. Donc bien sûr que je la connais, leur vie. Mais là, après, c'est secret médical. Hein. Je ne répète pas les secrets.
Vous devriez faire payer les consultations.
Oui, bah, je suis énormément récompensé par autre chose que de l'argent. C'est pas un métier où on est riche. Il faut le savoir quand on débute. Moi, je l'ai dit à tous les jeunes, ne faites pas ce métier pour gagner de l'argent. Ça marchera pas. Non, faut accepter de beaucoup travailler et pas beaucoup gagner d'argent. Mais on gagne tellement autre chose. On gagne une telle richesse de rencontres, d'histoires, de cultures, d'échanges, de liens. De mots, on trouve les mots pour le dire, parce que eux doivent les vivre, les mots, et ça dans la vie, arriver à pouvoir échanger avec juste le langage, moi avec le langage du costume et eux avec le langage des acteurs, c'est tellement enrichissant, c'est tellement, ça n'a pas de prix ça, ça s'achète pas ça, ça se mérite.
Vous me disiez avant qu'on commence l'enregistrement que pour vous, c'était pas un simple travail, ce que vous faites.
c'est pas un simple travail, c'est une passion d'abord, et puis ça dépasse le travail. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive pas de rentrer chez moi après une répétition et de penser que mon travail est fini. Mon travail, il continue dans ma tête. Il continue parce que je me dis, mais demain, comment je vais faire pour trouver la paire de gants? Demain, comment je vais faire pour raccourcir une crinoline quand il y a 5 mètres d'ourlet? Comment je vais faire demain pour trouver le chapeau qu'on m'a demandé? Et comment je vais faire? Je veux dire, j'y pense. Je redessine dans la nuit où je couds la nuit. Quand on termine à minuit et qu'on reprend à 14h le lendemain, entre minuit et 14h, il faut que je trouve, il faut que je le fasse, il faut que je répare, il faut que je recouse, il faut que je change, il faut que j'ai une autre idée. Moi, le lendemain, on m'attend avec un panier. Il faut que je remplisse le panier.
Est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit « je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas » et la date se rapprochait, vous ne trouviez pas?
Non, je trouve pas, mais je sais que je vais trouver. C'est pas une excuse. C'est un argument que j'utilise jamais. Jamais je suis dans la négation. Je peux pas dire non, c'est pas possible. Ça existe pas. Au théâtre, ça doit être possible. On doit faire des miracles. Il faut que j'y arrive. J'y arriverai. Je trouverai. C'est une question de vie ou de mort chez moi. Il le dit, François Morel. Il n'est pas question de baisser les bras. Parce que c'est un métier tellement extraordinaire que forcément, il n'est pas ordinaire. Donc, je ne m'attends pas à de l'ordinaire. Je m'attends à justement dépasser les limites, à trouver l'introuvable. Et c'est mon boulot.
C'est aussi très ludique comme travail, comme métier, disons.
C'est déjà une chance de pouvoir le faire. On est très peu à y arriver. Moi, j'ai eu une carrière magnifique. J'ai habillé les plus grands. J'ai eu tellement de chance. Mais j'ai jamais dit non. J'aime pas le non. J'aime pas le dire. J'aime pas qu'on me le dise non plus. J'aime pas qu'un acteur me dise non, je porterai pas cette robe. Je vais faire en sorte qu'il me dise oui, je veux la mettre. Je vais dans ce sens-là. Sinon, on ferme les portes. Il n'y a plus de création. Il y a trop de limites. Il faut, justement, c'est un métier qui permet de se dépasser. Moi, je le conçois que comme ça.
Comme un dépassement de soi.
Oui, j'aime la difficulté. Elle ne me fait pas peur. Et la difficulté, je l'accepte. Des fois même, je la propose, je la crée. Parce que justement, je trouve que c'est en la dépassant qu'on arrive à faire des choses originales, différentes, créatives, qu'on n'a jamais vues. Parce que à chaque fois, on a beau refaire tous les Molières de la Terre, il faut trouver à chaque fois une nouvelle idée. Pas reprendre celle de l'année dernière ou d'il y a 20 ans. Oui, c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Donc, pas de nom.
Vous parliez des rencontres que vous avez faites au fil des années. Il y a des amitiés qui se sont créées avec des comédiens, des comédiennes?
Ah oui, il y a beaucoup d'amitiés. Je dirais que c'est au-delà de l'amitié. C'est même, moi, je me suis fait une famille. J'en ai plus. Donc, j'ai gardé de tous les spectacles bien au-delà du travail. On traverse tellement de moments hors de la vie, quand on est enfermé dans un théâtre, on passe les caps ensemble, on se découvre, on a peur ensemble, on rit ensemble, on aime ensemble. Et ça, ça crée des liens intimes incroyables. J'ai accompagné, et je dis ça parce que c'est mon actualité, Michel Aumont, qui est parti il y a 3 semaines, et cet homme que j'ai habillé pendant des années, il a été mon meilleur ami. Il m'avait adopté. On se voyait tous les dimanches et on parlait de théâtre. Et c'est allé bien au-delà d'un contrat. Bien au-delà.
Il y en a que vous préférez habiller encore plus que d'autres? Ou à chaque fois que vous les retrouvez, oui. D'une pièce à l'autre, vous vous dites « Ah, super !»
Oui, j'ai plein de chouchous. Et j'ai des chouchous parce que moi, ce que j'aime, c'est les acteurs. J'aime les acteurs qui aiment jouer. J'aime les acteurs qui aiment la découverte, qui aiment « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Et comment je vais t'habiller ? Et à l'acte 3, qu'est-ce que tu vas me trouver pour rentrer à l'acte 3 ?» Et il y a des acteurs qui sont gourmands, qui aiment le costume, qui attendent avec impatience d'avoir le costume pour dire « Bon, ben moi, je jouerai quand j'aurai le costume. » Alors, bien sûr, ça, c'est une grande responsabilité, mais c'est un échange amoureux, parce que je te donne, tu me donnes.
On a l'impression qu'il retombe en enfance.
On a toujours dit qu'on était des enfants au théâtre, à cause du jeu. Mais attention, on joue comme les enfants, sauf qu'on est des grands et que c'est un métier. Donc, ça ne veut pas dire que c'est amateur, c'est ça. Ce sont des enfants professionnels. C'est un métier de faire l'enfant.